France, le pays rend hommage à Arnaud Beltrame, l'officier de gendarmerie décédé dans la prise d'otage de Trèbes près de Carcassonne la semaine dernière. Un hommage national auquel la population française est invitée à se joindre. Fabrice Grosfilet à 8h33, c'est votre point de vue. Ces cérémonies mises en place, elles indiquent que nous avons besoin de nous identifier à des actes héroïques.
Une minute de silence observée dans toutes les gendarmeries, un cortège qui part du Panthéon, le lieu où la France enterre ses grands hommes, pour rejoindre les Invalides, le lieu où elle organise ses grandes cérémonies militaires. Salut aux familles, éloges funèbres, décorations posthumes, commandeur de la Légion d'honneur, Marseillaise pour conclure. C'est toute la panoplie de la symbolique républicaine qui est convoquée pour signifier que toute la France se retrouve derrière le geste héroïque de ce gendarme qui s'est donc volontairement proposé pour remplacer une otage. Et signe qui ne trompe pas, les Français sont effectivement invités à participer, soit en observant une minute de silence, soit pour les Parisiens en se postant le long du parcours.
Alors cette mobilisation, elle élève le gendarme Beltrame au rang de héros national. Il devient surtout un symbole de la lutte antiterroriste.
Oui, parce qu'il faut du courage, bien sûr, pour proposer à un terroriste de se placer sous son contrôle, le sens du devoir. Arnaud Beltrame a bravé le danger, il est entré volontairement dans une zone de risque et il s'est sacrifié au nom d'un idéal supérieur, la protection du citoyen, la défense du plus faible. Il porte haut l'honneur de son uniforme et surtout il incarne effectivement désormais une forme de résistance à la panique, cette panique qui peut nous étreindre face au terrorisme. Il est possible donc de rester maître de soi. C'est la première fois que nous avons un héros qui ne subit pas les attentats, mais qui en prend un petit peu le contrôle. Charlie Hebdo, le 13 novembre à Paris, le 22 mars à Bruxelles, le 14 juillet à Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray, Berlin, Stockholm, etc. Nous éprouvons du respect pour toutes les victimes des attentats terroristes. Elles ont toutes payé de leur vie la folie de leurs agresseurs alors qu'elles étaient toutes innocentes. Et dans la guerre psychologique que les terroristes nous imposent, qui consiste à nous faire peur, à nous faire vivre dans l'angoisse, à nous dresser les uns contre les autres, bah c'est un petit peu comme si par l'intermédiaire d'Arnaud Beltrame, nous reprenions la maîtrise de la situation.
Et cela nous amène, Fabrice, à nous interroger sur la notion de héros.
Oui, dans l'Antiquité grecque, vous avez des lettres, François.
Un petit peu.
Le héros, c'est donc un demi-dieu. Oui. Et par la suite, c'est celui qui se distingue par ses exploits ou par un courage exemplaire. Alors, on en connaît beaucoup des héros. Arnaud Beltrame, évidemment, en est un. On peut penser aux combattants kurdes qui sont en première ligne contre les terroristes de l'État islamique. Et cette notion de héros, elle est toujours plus ou moins associée à une notion de risque. Il faut se mettre volontairement en danger pour mériter le titre. Et pourtant, une femme seule qui élève ses trois enfants, qui court d'un petit boulot à l'autre pour joindre les deux bouts, elle pourrait mériter le titre de héros du quotidien. Et parfois, nous galvaudons un petit peu le terme en parlant d'héroïsme. Par exemple, pour un athlète aux Jeux Olympiques, dans un tournoi de tennis, c'est pas vraiment se mettre en danger. Ça, des diables rouges ne sont pas vraiment des héros et d'ailleurs, leur faut pas leur colle à la peau. Il y a quand même une dimension supplémentaire, d'ailleurs, qu'il faudrait souligner dans le cas d'Arnaud Beltrame, c'est celle du sacrifice. C'est un héroïsme et c'est un sacrifice. On approche de la semaine de Pâques. Le lieutenant-colonel n'est pas mort sur la croix, mais il a offert sa vie pour sauver celle d'autres personnes. Il a dépassé sa mort en portant un message, c'est celui qu'avec ou sans uniforme, nous formons face aux terroristes une communauté.
Et vous aimez bien faire référence à la mythologie grecque, Fabrice.
Oui, avec Philippe,
merci.
Il y a beaucoup de choses, et même du sport.
C'est vrai, effectivement. On va en discuter de cette notion de héros avec Kevin Poézévara. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant, un chercheur au département études psychanalytiques de l'université Paris 7. Vous avez notamment écrit une thèse de doctorat sur l'héroïsme. Le terme héros, la notion de héros en ce qui concerne ici Arnaud Beltrame, elle n'est pas galvaudée?
Non, je pense pas. Après, ce qu'il faut se poser comme question, c'est vraiment qu'est-ce qu'un héros. Je crois que ça bouge beaucoup selon les cultures. Et ça bouge selon les époques. Et donc là, il va falloir se positionner sur qu'est-ce qu'un héros pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'un héros en effet, par exemple, pour un grec, qu'est-ce qu'un héros, par exemple, pour le XVIIe siècle en France.
Ouais. Et justement, c'est quoi un héros alors aujourd'hui pour nous? Parce qu'on entendait Fabrice Grosfilet qui disait qu'il y avait la notion de risque, de danger. Il y a d'autres notions aussi qui font partie de cette figure du héros.
Écoutez, le héros, aujourd'hui, en fait, dans la littérature, malheureusement, le héros, très vite, est du côté de l'insuffisance. On a plutôt des contre-héros, des faux-héros, des héros insignifiants, etc. Le héros grandiloquent, le héros du mythe, est un peu galvaudé. On a eu ensuite un héros du roman feuilleton, vous savez, c'est-à-dire ce héros qui est toujours tiré vers l'avant, qui court vers le danger, mais en même temps qui est jamais vraiment en danger, puisqu'on le retrouve dans le... Il est en danger entre deux épisodes, et puis en fait on retrouve ce moment d'après. Et voilà, on est un petit peu tiraillé entre ces deux modèles aujourd'hui. Et dans les faits, le héros est surtout une figure d'identification.
Ouais. André Comte-Sponville disait dans le journal Le Monde d'hier que l'héroïsme, c'est du courage, mais c'est aussi, et peut-être surtout, de la générosité. Vous êtes d'accord avec cette définition ?
Bah, écoutez, la générosité, ça voudrait dire qu'il y aurait un don. Hein. Qu'est-ce que cet homme a donné ? Il a donné quelque chose de soi, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas laissé, il n'est pas resté dans une, ce qu'on pourrait appeler du narcissisme. Voilà. Il n'est pas resté dans un amour de soi, il a pu sacrifier quelque chose. Au nom de quoi ? Au nom d'un idéal. Et d'ailleurs, peut-être grâce à cet idéal, grâce à ce rapport à l'idéal qu'il pouvait avoir.
Dans le cas d'Arnaud Beltrame, on s'est tous à peu près posé la question, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place ? Est-ce qu'on est tous susceptibles de faire preuve d'héroïsme ? C'est quelque chose qui peut concerner tout le monde ou bien certains l'ont et d'autres ne l'ont pas ?
C'est la question en effet qu'on se pose tous à ce moment-là. Serions-nous capables de faire ce qu'il a fait ? Et surtout, serions-nous capables de le faire comme il l'a fait, c'est-à-dire sans tergiverser, sans détour, sans la moindre hésitation ? C'est la question qui se pose pour nous face à cette histoire, mais il sera très difficile d'y répondre au nom de tous parce que c'est une question éthique, en fait. C'est une question qui relève d'une éthique individuelle du sujet, confronté à une situation similaire. Est-ce que j'aurais réagi comme le gendarme ou bien comme ce père de famille, vous savez, dans ce film Snow Therapy qui a été primé à Cannes, qui, face à une avalanche, bouscule sa femme et ses enfants pour s'en tirer. La question, c'est une question éthique et donc elle doit rester ouverte. Mais en tant que telle, elle nous renseigne déjà donc, sur ce ressort essentiel qu'est l'identification en lien avec l'héroïsme.
Et c'est quoi le ressort psychologique qui est au départ d'un tel acte comme celui d'Arnaud Beltrame ? C'est réfléchi, c'est de l'ordre du réflexe, c'est peut-être aussi une conséquence de sa préparation à lui en tant que gendarme, de son entraînement ?
Je crois que le mieux pour tenter de répondre à cette question, c'est d'écouter ce qui a été dit à propos d'Arnaud Beltrame, notamment par ses proches, qui insistent pour dire que son geste les a pas du tout étonnés. Hein. On lit, on entend un peu partout qu'il avait sa mission chevillée au corps, que l'envie d'être au service d'autres était dans son sang, qu'il était habité par la fonction emplie d'idéal. Il y avait donc chez lui, pour entendre ce terme qui est, je crois, d'une justesse clinique totale, une sorte de chevillage de l'idéal au corps, qu'il prédisposait sans doute à cet acte désintéressé, désintéressé pour sa propre personne, mais pas du tout désintéressé pour ce qui est de l'idéal. La mère du gendarme, elle dit ça très bien, vous avez vu, elle dit, est-ce que c'est un sacrifice ? Je ne sais pas, c'était sa vie, c'était son idéal.
Ça veut dire que dans son cas, on ne réfléchit pas beaucoup avant de se lancer ?
Je crois que de toute façon, toute sa vie le menait à ça. Et c'est à ce point final d'héroïsme que est retracé toute sa vie, en fait.
Est-ce que nous avons besoin de ce genre de figure d'héroïsme pour nous aider à accepter, à digérer tous ces événements anxiogènes ?
Je crois que là, on voit bien avec la mobilisation, c'est qu'il y a un vrai besoin hein, du collectif. Après, il y a peut-être aussi quelque chose de risqué dans cette affaire. L'homme qui a ainsi pu se précipiter dans la mort au nom de l'idéal, sans doute grâce ou à cause de son appareillage à l'idéal à la fois militaire et chrétien, il offre aussi toutes les prises pour servir à son tour d'idéal. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, puisque le lien social se nourrit d'idéaux, mais il ne faut pas évacuer la part morbide de l'idéal. Hein, il y a un envers nocif de l'idéal, c'est-à-dire la récupération au profit de discours qui serait plus du côté de la haine et du rejet de l'autre. Dans cette scène, il ne faut pas oublier qu'il y a un autre acteur, le terroriste, qui est un vengeur de l'idéal, c'est le terme que utilise par exemple Fethi Ben Slama, qui lui aussi était prêt au sacrifice de son âme. Donc il y a vraiment deux faces de l'idéal, une part morbide et puis une part, on va dire, plus exaltée.
Et dans notre psychologie qui nous pousse à accomplir de tels actes, est-ce qu'il n'y a aussi pas ce côté surhomme hein, qui a le sentiment que rien ne peut lui arriver, sentiment d'invincibilité peut-être aussi ?
De toute façon, je crois que dans l'inconscient, tous les hommes se sentent invincibles. Il y a quelque chose comme ça d'une absence de représentation de sa propre mort, à part dans des grands moments d'angoisse, dans des moments de cauchemar. Mais il y a quelque chose d'un fantasme du héros, d'un fantasme du sauveur, disait Freud, qui est présent chez chacun et qui tient peut-être à la question de se dédouaner de sa propre naissance. Voilà, je suis en dette d'être né, il va falloir que je paye cette dette en, à un moment donné, sauvant quelqu'un. Après, ce qui est différent dans son acte, c'est cette substitution qui a l'air de frapper les imaginations, se substituer à l'autre, qui est étonnamment une des premières formes d'héroïsme. C'était celle qui était la plus appréciée des panthéons, des dieux du panthéon grec, c'est-à-dire quand le héros pouvait prendre la place de l'aîné sur le champ de bataille.
Kevin Poézévara, chercheur en études psychanalytiques à l'université.